Appelez le baby Philippe à la guitare sonorita.
Radio Grenouille participe à la fête qui est organisée pour les 50 ans de la Cité des Rosiers à Sainte-Marthe dans le 14e arrondissement de Marseille. Il est vendredi 23 et samedi 24 novembre 2007. Une fête de deux jours dans la cité et au centre social dans laquelle il y aura des installations artistiques, un repas de quartier, des projections, une conférence, une braderie, du théâtre forum, des ateliers de coupé décalé et la pose de la plaque « Les Rosiers, patrimoine architectural du XXe siècle » par le ministère de la Culture. Tous les jours, à 14h, sur les 3-8, entre le 19 et le 23 novembre, des interviews et témoignages de certains acteurs et organisateurs de cet anniversaire des 50 ans. Aujourd'hui, Jean-Yves Pichot, directeur de la Maison des Familles des Associations du 13e et 14e arrondissement, ancien directeur du Centre Social des Rosiers. Jean-Yves Pichot, qui est à l'origine de la fête des 50 ans.
Patrick Depuis Grinoc. Yeah. Woo.
Alors, je veux dire, c'est déjà une histoire, hein, puisque déjà ça commence avec mon arrivée en 1996. Et là, donc, c'est posé rapidement la fête des 40 ans. Et donc on a monté en 1997 jusqu'en 1998 toute une série de manifestations autour de la fête des 40 ans et qui a permis, je veux dire, d'engager un dialogue entre les habitants et les pouvoirs publics et donc a permis de parler du fameux plan de sauvegarde, je veux dire, dont on commence à voir la réalisation 10 ans après. Donc là, la fête des 50 ans, pour moi, c'est une suite, hein, c'est engager, continuer d'engager un dialogue entre les habitants, les pouvoirs publics et les copropriétaires, de façon à voir quel est le devenir de cette cité, comment on peut mieux vivre ensemble.
Qu'est-ce que c'est ce plan de sauvegarde? Pourquoi il fallait un plan de sauvegarde?
La cité présentait et présente toujours de nombreux dysfonctionnements. Le premier, c'était cette architecture assez massive et qui présentait de nombreuses carences. Donc à la fois, pas de sécurité incendie, des problèmes de consommation excessive d'eau de certains habitants, des problèmes de sécurité des ascenseurs, des problèmes d'isolation, des problèmes de tag, de peinture défraîchie. C'était en gros les problèmes présentés. Après, il y avait des problèmes sociaux, donc une évolution importante de la population, puisqu'on passe de 1993... il y avait à peu près 70% de propriétaires occupants et 30% de locataires. En 2003, on est sur 65% de locataires et plus que 35%, et encore c'est en baisse tout le temps, de propriétaires habitants. Donc il y avait un profond changement de population avec une arrivée importante de la communauté de comorienne et mahoraise. Donc il y a des problèmes de cohabitation, des problèmes de conflits sociaux et surtout une extrême précarité, hein, puisque quand on analyse les chiffres du collège Marguerite-Laurencin, donc les chiffres de l'emploi, je dirais même du non-emploi de la personne responsable de l'enfant, on est sur la 2006-2007, 71% de parents qui sont sans emploi. Et là, donc ça faisait 120 parents au chômage. Et là, il y a 113 parents au chômage et ça représente plus qu'un peu moins de 60%. Donc on voit quand même une énorme précarité dans cette cité. Donc ça, c'est le deuxième volet du plan de sauvegarde, le volet social. Et donc il y avait un troisième volet, c'était redresser les finances de la copropriété, puisqu'effectivement c'est une copropriété extrêmement endettée, et surtout de la part des propriétaires bailleurs, donc qui encaissent les loyers mais qui ne payent pas les charges. Donc on sait qu'à peu près 2/3 des dettes sont dues à ces petits copropriétaires bailleurs qui ne s'acquittent pas de leur quote-part des charges de copropriété.
Alors, il y a un plan de sauvegarde qui a été mis en place à 96, mais la description que vous nous faites, on dirait que tout s'est aggravé alors qu'il y avait ce plan de sauvegarde.
Le plan de sauvegarde, il va aussi à la vitesse des pouvoirs publics, à la vitesse des négociations qu'on peut mener sur le terrain, et en même temps aussi à des réalités sociales. Hein. Donc le parc HLM à l'heure actuelle, je veux dire, a énormément de demandes. Hein. On peut considérer entre 20 et 26 000 demandes non satisfaites sur le parc HLM. Donc le problème du logement se reporte sur l'habitat privé et les grands ensembles comme les copropriétés, hein, Félix Pia, Calisté, Corot, se retrouvent donc à accueillir, donc à devenir un parc social de fait, hein, donc à accueillir une population qui n'est pas accueillie par les HLM et qui aurait besoin de ces loyers, parce que les familles là s'endettent énormément dans la copropriété. On sait qu'un F3 est loué 700 euros, un T4 est loué entre 800 et 1000 euros. Donc ça endette gravement les familles, ça pose des problèmes de suroccupation, parce qu'il faut être, enfin, ils sont parfois deux familles dans 60 mètres carrés pour pouvoir arriver à payer les loyers, sans compter les charges qui sont quand même importantes, je veux dire, avec l'ensemble de l'entretien et des dégradations permanentes.
Il y a des propriétaires qui abusent là, non ?
Mais évidemment qu'il y a des propriétaires qui abusent. Je veux dire, c'est un des points, je veux dire, qu'on n'a pas pu faire avancer dans la négociation du plan de sauvegarde. C'est comment mettre en place un encadrement de ces propriétaires qui louent des appartements dégradés à des tarifs pas possibles, je veux dire, et qui, profitant que les personnes maîtrisent peu le français et pas du tout le droit, font signer des contrats, encaissent les allocations logement de la caisse d'allocation familiale directement sur leur compte et ne tiennent aucune comptabilité très précise, laissant constamment la personne en dette avec des retards de charges, avec des comptabilités qui ne sont jamais arrêtées, où on a la personne qui est en grave difficulté tout le temps, quoi, et qui se prive pour payer le logement, pour pas être à la rue, quoi.
Le parc Bellevue, je crois, ils ont eu le plan de sauvegarde aussi vers 95-96. On a l'impression que les choses sont allées quand même beaucoup plus vite qu'au Rosier, non ?
Ça, je veux dire, c'est peut-être aussi une figure un peu plus emblématique. Je veux dire, les Rosiers, donc déjà, le plan de sauvegarde commence qu'en 99. Hein, la commission chargée d'élaborer le plan de sauvegarde, c'est de 99, et le plan de sauvegarde est réellement signé en 2001, hein, à partir d'une négociation qu'on avait menée à partir de 1997. Hein. Donc là, mais c'est en même temps aussi la difficulté pour la puissance publique d'intervenir sur un parc privé, parce que là, il y a quand même 4 millions d'euros qui sont en jeu de fonds publics qui vont être donnés dans ce plan de sauvegarde pour simplement 750 000 euros de fonds privés, c'est-à-dire de fonds des copropriétaires. Et donc il y a quand même un souci de voir quels sont de propriétaires vont avoir le bâti, hein, donc les parties communes rénovées, alors que eux, au niveau des parties privatives, ne feront aucun effort et continueront de louer des taudis à des familles en difficulté.
Parc Bellevue, c'était une copropriété privée aussi.
C'est une copropriété privée, mais il y a eu une intervention deux logeurs qui ont racheté un certain nombre d'appartements, qui ont permis, je veux dire, de reprendre le contrôle de la copropriété et de remettre en place une gestion. Alors que cette démarche-là n'a pas été faite par les Rosiers. Et on souhaitait plutôt faire prendre conscience aux copropriétaires de leurs responsabilités et qu'ensemble, copropriétaires et locataires, avec le syndic, on puisse aller vers une amélioration du mieux vivre ensemble. Hein. Donc à travers les actions menées par ESF Services, hein, notre partenaire autour du logement, a été mis en place un livret du copropriétaire expliquant les droits et les devoirs. Enfin, il y a eu toute une série d'actions sociales. Il y a eu un conseiller social sur le logement qui à temps plein, je veux dire, a fait de la médiation entre les locataires, les propriétaires et le syndic. Voilà, mais bon, en même temps, je veux dire, il y a 730 logements, 3500 habitants, et on peut aligner en face que un conseiller social, le centre social a un mi-temps de conseiller social, une équipe d'animation et maintenant un animateur de prévention. C'est-à-dire que face à 3500 habitants, on aligne même pas la moitié d'une équipe de foot, quoi.
C'est une cité abandonnée.
abandonné. C'est toujours pareil. Je veux dire que la puissance publique nous dit le parc privé, je veux dire, est majoritaire à Marseille. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de petits propriétaires qui se comportent dignement, qui louent de l'habitat ancien ou moderne, je veux dire, correctement. Là, dans ces cités, on accumule, je veux dire, sur un espace restreint, on accumule tous les problèmes de notre société, les problèmes de logement, les problèmes d'emploi, les problèmes de santé, les problèmes d'éducation, les problèmes de citoyenneté. Donc c'est pas étonnant, je dirais, que ça devienne des lieux d'exclusion sociale, de relégation sociale. Mais chaque société a ses exclus. Le seul problème, c'est la dignité d'une société, c'est comment elle traite ses exclus et comment elle arrive à mettre en place des passerelles qui vont permettre à ces familles, je veux dire, dans des situations de précarité, de pouvoir développer un projet familial et un projet de progrès familial.
Le tableau est quand même très sombre. Juste, il n'y a pas longtemps, rencontré Kassim, l'animateur sportif du centre social, qui disait les rosiers, c'est comme sur les autres cités, il faut arrêter de parler du négatif et parler un peu du positif. Alors, qu'est-ce qui serait positif, là, après ce tableau un peu sombre?
Rien que son expérience. Moi, je vois arriver Kassim, je veux dire, il y a 6 ans. Il est clandestin, il a des problèmes de santé. Donc, il obtient comme ça une régularisation de ses papiers. Puis après, ce jeune-là, il se forme. Il fait valoir l'expérience qu'il avait sur les Comores d'entraîneur de basket. Il devient entraîneur de basket. Il s'inscrit au niveau de la ligue de basket et il devient arbitre pour la ligue de basket. Il se débrouille pareil en volleyball et maintenant après avoir travaillé comme vacataire au centre social, mais maintenant il est adulte relais, il assure de la médiation entre le collège, les parents et les jeunes à travers aussi une pratique sportive. Voilà, donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à mettre en place sur ces cités, c'est des passerelles de promotion sociale qui font qu'on part des capacités de ces gens-là, et il y en a énormément de capacités. Et on avance, sauf qu'à l'heure actuelle, le terrain, je veux dire, il est le cœur de ces cités, sont souvent occupés par des jeunes en grande difficulté qui sont sur l'économie souterraine. Donc c'est aussi quels sont les moyens, je veux dire, qui sont donnés, mais c'est pas que les moyens financiers, c'est comment globalement notre société, avec nos intellectuels, nos entreprises, on va pouvoir reprendre le dialogue avec ces habitants des cités les plus exclus, et on va voir comment, à partir d'un projet de progrès familial, on va pouvoir enclencher une dynamique sociale qui fera bouger l'ensemble de notre société. Ils sont porteurs de richesses et c'est à partir de là qu'on peut travailler, et non pas partir de leur situation d'exclusion ou des catégories sociales dans lesquelles on les met, bénéficiaires du RMI, chômeurs longue durée et autres, clandestins et compagnie.
Ce sont des choses qui enferment, ça.
Non seulement ça enferme, mais en même temps, ça permet à tout le monde de se dédouaner en disant, mais écoutez, la responsabilité administrative du RMI, c'est le conseil général, la responsabilité des chômeurs longue durée, c'est la NPE et l'État, la responsabilité des clandestins, c'est je sais pas qui, donc, et comme ça, enfin, ou les associations humanitaires pour les clandestins, enfin, voilà, on morcelle une cité, des habitants, alors que c'est sur la cohésion de la cité. Et ce qui est intéressant dans le plan Borloo, c'est au moins qu'il parle de cohésion sociale. C'est-à-dire, c'est qu'à partir de là, on traite sur une zone territoriale à travers un projet de développement social. Quoi. C'est ce qu'on souhaite, ce que j'ai toujours mis en place en tant que directeur du centre social à l'époque.
Tout à l'heure, vous parliez des incohérences architecturales de la cité des Rosiers, et à l'occasion de ce cinquantenaire, c'est une cité qui va obtenir un label architectural patrimoine du XXe siècle. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ça, c'est toujours le paradoxe, je veux dire, entre une conception architecturale du beau geste, où on fait un beau bâti, je veux dire, et en face, la façon dont l'équipement, le logement est vécu par les habitants. On a souvent l'impression, je veux dire, que les équipes d'architectes ne se posent pas réellement la question de l'utilisateur de leur bâtiment, et font à partir de modes architecturales je dirais, des cadres dans lesquels ils essayent d'insérer peu ou prou les habitants. Et là, on a cette erreur architecturale, parce que les gens, ils y vivent quand même durement à l'intérieur, parce que quand même réussir à faire des bâtiments de 12 étages sans aucune sécurité incendie, je veux dire, c'est quand même redoutable, en sachant que dans la grande barre, le bâtiment A, il y a 220 logements, avec deux ascenseurs et juste deux sorties de secours. Donc si on considère 220 logements, ça fait en gros, entre avec une population de 5 personnes par logement, ça fait en gros 1 100 personnes qui sont dans le bâtiment avec des risques incendie importants et deux escaliers de secours où on peut être à 2 ou 3 de front, hein, donc avec des risques d'incendie à tel point que les pompiers de la caserne de pompières viennent s'entraîner au rosier en disant si un jour il y a une grande catastrophe, au moins on saura comment faire. Voilà le paradoxe aussi de ce bâti. Alors moi je suis content parce que j'ai fait une grosse campagne pour que les rosiers soient reconnus. Donc je suis content qu'il y ait ce label patrimoine du XXe siècle. Parce qu'en même temps, ça permet d'engager un dialogue entre les habitants et les concepteurs. Je veux dire, moi j'avais fait travailler des élèves de l'école d'architecture avec Monsieur Félicie. Je veux dire, parce qu'il faut aussi que chacun se rende compte, et le fait que ce soit un patrimoine du XXe siècle, mais ça amène aussi à interroger comment loger au XXe siècle les habitants.
Sauf que les habitants, qui avaient été, je crois, fortement mobilisés autour de l'anniversaire des 40 ans, n'ont pas vu les choses beaucoup changer et que du coup, maintenant, ils risquent d'être un peu distants par rapport à tout ça. Et alors qu'on sait que les conditions de réussite aussi d'opérations de sauvegarde, tout ça, c'est quand même l'implication des habitants avant tout.
Ah, ça, c'est clair. Hein. On a toujours la difficulté du temps de l'administration qui n'est pas le nôtre sur le terrain. Je veux dire, c'est vrai qu'entre l'immédiateté des besoins auxquels on a à répondre, hein, je veux dire, les gens, quand ils ont faim, c'est pas dans un mois qu'on doit leur donner à manger. Quand ils ont besoin de travailler, je veux dire, c'est pareil, c'est pas dans 10 ans. Et le problème, c'est que le temps de l'administration, et surtout pour les opérations lourdes, où se négocient plusieurs millions d'euros, il est clair, je veux dire, que le temps d'administration est très long. Je veux dire, la négociation commence en 97, on est en 2007, je veux dire, voilà, et les premiers échafaudages devraient arriver, ils devaient arriver en milieu 2007, ils arriveront en 2008, on espère.
Peut-être pour terminer, comment vous imaginez la suite au Rosier ?
Alors c'est vrai que je ne suis plus le directeur du Centre social des Rosiers, donc j'ai quitté il y a 6 mois. Voilà, donc il y a un nouveau directeur. Moi ce que j'espère que mon successeur et que nos partenaires de la politique de la ville vont continuer à avoir une attention particulière pour cette cité, parce qu'à la fois, ça pourrait être un gigantesque et un superbe laboratoire d'expérimentation, d'accueil des nouvelles communautés. Il y a des écoles et des collèges qui sont très motivés, avec de belles équipes, avec de bonnes directions. Moi, je crois que l'éducation nationale est mobilisée, les travailleurs sociaux le sont aussi. Ce qu'il faudrait, c'est un peu de stabilité dans les financements, un peu de stabilité aussi dans un projet, et avoir une direction de la politique de la ville et de la préfecture au niveau du préfet chargé de l'égalité des chances. Voilà, s'il y a une vraie volonté et politique au niveau social sur le terrain, les gens, ils sont prêts à travailler.
Appelez le baby Philippe à la guitare sonorita.
C'était Jean-Yves Pichot, directeur de la Maison des Familles et des Associations du 13e et 14e arrondissement. Les 50 ans des Rosiers, c'est le 23 et 24 novembre 2007, toute la journée. Plus d'infos sur www.marseille2013.org/les-rosiers.
Yeah, yeah. Yeah. Ouh, yeah. Kamaluka kaso e balanga yo.